Revue de presse de l'April, semaine 18, année 2013. Salut Nicolas.
Salut Luc.
Alors on s'est débarrassé de Manu.
C'est exilé en Suisse.
Sur cette revue de presse, on va parler économie collaborative, on va parler tracteur, on va parler également espionnage, Espagne et DPC, l'intégration du droit d'auteur dans TAFTA dont on a parlé la semaine dernière, et les journées mondiales contre les DRM.
Alors, l'entreprise.com, l'économie collaborative, une nouvelle ruée vers l'or, par Étienne Gless.
L'économie collaborative, c'est une notion relativement récente. On parle également de consommation collaborative. L'économie va sur quelque chose d'un peu plus large. C'est l'idée de partager différemment, d'aborder toutes les questions de la vie courante sur des bases de partage et d'optimisation des ressources.
Ouais, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche très très fort. Il y a pas mal de choses qui sont lancées. Donc il y a des systèmes de location, de prêt de matériel qui ne nous servent plus.
Ou de partage, par exemple, on cite l'article, cite le partage de machines à laver.
Qui servent peut-être une fois par semaine pour certains, du coup,
on la partage avec les voisins qui peuvent venir faire leur machine et louer un bout de machine à laver et avec un site internet qui est là pour organiser ce genre de choses. Il y a d'autres trucs comme la location de voitures.
De covoiturage ou de choses comme ça pour.
Ou d'échange d'appartements pour les vacances. Ouais, des choses qui marchent très très bien. Il y a eu donc, il y a un site qui s'appelle WeShare qui est cité dans l'article et qui a organisé très récemment la WeShare Fest, donc le 4 mai, 4, 5 et 6 mai, je crois, dernier. Et pour échanger sur ces sujets-là. Donc voilà, c'est un article qui est un petit peu en bilan
de tout ce qui se passe. Ça s'est remis aussi dans le contexte de la crise en disant que si ça se développe, c'est peut-être aussi parce que les gens n'ont pas forcément les moyens, plus forcément les moyens de faire tout ça. Donc tout ce qui peut être réutilisé, autant s'en servir. Quoi.
Ce qui est intéressant là-dedans, on n'est pas vraiment dans du libre. Hein. Il parle également de financement, de crowdfunding, comme on dit, donc de financement par des plateformes spécifiques où les gens vont chacun apporter une contribution pour faire avancer un projet. On est sur des choses qui sont un peu dans l'héritage du logiciel libre, mais on n'est pas nécessairement dans le libre. En tout cas, ça montre cette idée de partage. Là, on est dans le bien matériel. Ouais, ça fait des émules, donc c'est quelque chose qu'on surveille avec un certain intérêt, même si on n'est pas vraiment dans des démarches libres.
Youfil, quand l'open source permet de fabriquer soi-même son tracteur par la rédaction. Donc là, une petite anecdote assez sympa d'un agriculteur qui a cassé son tracteur. Et que plutôt que d'en racheter un qui coûtait énormément d'argent, il a décidé de le faire lui-même.
Je crois qu'on avait parlé de ça dans la revue de presse il y a au moins 2 ans. Et ce type est relativement connu, c'est un Polonais qui vit aux États-Unis, qui en gros a fait des études en physique nucléaire, un truc très très théorique, et qui s'est dit finalement il allait devenir agriculteur, paysan. Et donc voilà, il a constaté que les machines agricoles coûtaient une fortune, que ça tombait en panne, et que pour les réparer il fallait faire appel à des spécialistes, et qu'au final la productivité que ça permettait était en grande partie absorbée par la maintenance de la machine.
Par la maintenance, puis par le coût même d'investissement au départ. Il donne l'exemple, une machine neuve ça coûte à peu près dans les 30 000 $, lui,
pour un tracteur.
Et donc il a réussi, lui, à en faire une pour moins de 6 000 $. Donc les coûts sont assez énormes, surtout qu'aujourd'hui, on sait que l'agriculture, c'est pas le domaine qui est super rentable. Donc tous les petits gains comme ça, ça peut être un énorme plus pour les agriculteurs. Mmh. Et donc voilà, en plus avec aujourd'hui l'imprimante 3D et les autres systèmes comme ça qui apparaissent, on voit bien que ça commence à avoir des...
Là, il joue du fer à souder et de la meule, c'est de l'acier pur et dur. Et il a d'autres projets, d'autres machines. Et une petite vidéo très très sympa qui montre les différentes versions du tracteur. Donc à regarder, c'est assez rigolo. Et l'idée derrière, c'est de dire comment on peut reconstruire une civilisation de façon autonome. Alors il faut quand même avoir des moteurs diesel, c'est pas quelque chose qu'on construit dans le fond de son jardin, mais l'exemple est très intéressant.
Alors la presse, comment Internet nous espionne? Notre cyberprison, par Rudy Lecourt.
Donc la presse, c'est un site canadien déjà. Donc ça part un peu sur des constatations par rapport aux attentats de Boston notamment, ou d'autres événements qui ont eu lieu en Amérique du Nord, où personnes qui ont fait ces trucs-là, les terroristes, ont été soit attrapés avant, soit rattrapés très vite.
Donc avec la problématique derrière qui est soulevée que aujourd'hui aux États-Unis, tout le monde est surveillé. Tout ce qui est portable, internet, les SMS, le téléphone, tout est surveillé. Et ça a permis d'un côté de réagir assez rapidement dans les cas des attentats, mais on sait pas trop ce que ça peut devenir derrière ça.
Par rapport aux libertés des uns et des autres. Mmh. Donc l'article cite Julian Assange, donc qui est le
fondateur de WikiLeaks.
De WikiLeaks, qui a de sérieux problèmes, et qui dit que Internet a été militarisé puisque tout est surveillé désormais. Et donc dans la démarche, il les explique que des grosses entreprises comme Apple, Google, Visa, PayPal, Facebook ont passé des accords avec le gouvernement américain pour avoir une immunité au cas où certains de nos clients fassent des choses illégales. légale ou avec leur service, mais que en il contrepartie,
il fallait qu'ils donnent toutes les informations. Voilà.
Tout à fait.
Donc tout est surveillé. Donc il y a eu pas mal d'articles récemment en plus dans la presse là-dessus, où aujourd'hui le gouvernement américain aurait reconnu plus ou moins du bout des lèvres que tout était surveillé, que toutes les conversations téléphoniques américaines étaient enregistrées et surveillées. Donc ça fait un peu Big Brother version.
Il y a un petit exemple. Alors on sait que WikiLeaks notamment, quand ça a pété, les principaux opérateurs bancaires, donc Visa, Mastercard, PayPal, ont verrouillé les paiements vers WikiLeaks de façon parfaitement arbitraire. Hein. Il n'y avait pas de décision de justice derrière particulière. C'est, ils ont juste dit, bah, on arrête les paiements vers ce truc-là parce que nous, on n'aime pas. Donc ça veut dire que ces services à qui on achète tous les services, hein, c'est le truc américain, mais on est tous là-dessus, décident à notre place là où on peut mettre notre argent ou pas. Et un exemple qu'il y a dans l'article que je trouve assez intéressant, c'est que quand Visa a commencé à s'installer aux États-Unis, en Russie, pardon, bah, les Russes ont dit, bah, nous, on veut que les opérations soient fonctionne chez nous en Russie, et Visa dit non. Et donc le résumé, c'est de dire, voilà, quand Poutine s'achète une bouteille de vodka, les Américains sont au courant. Donc voilà, des éléments qui font réfléchir en tout cas.
Alors, Join Up, Spain, Extremadura starts with switch off 4,000 government PC to open source par Gis Il. Ilenius.
Alors voilà, c'est pas facile, c'est de l'étranger. Alors l'article, bon, le fond de l'article est relativement simple, hein. C'est Extremadura, c'est une région d'Espagne,
Espagne,
et qui
voilà.
va faire migrer son informatique vers des postes sous logiciel libre, avec le système d'exploitation et tous les logiciels. Donc ils citent la gendarmerie française.
Voilà, la gendarmerie française, on espère juste qu'ils feront pas comme le gouvernement français, puisqu'il y avait une tentative là-dessus, mais qui avait vite tourné court, ils étaient vite revenus sous des technologies privatrices. Là, ça a l'air de quand même pas trop mal s'annoncer. On va voir après ce que ça donne. Bon, on parle quand même de 40 000 PC qui vont migrer, donc ça peut être une grosse migration et un bon retour d'expérience pour les technologies là.
Voilà, ce qu'ils attendent, c'est de faire une économie de 30 millions d'euros par an, c'est ce qu'ils annoncent. Ça fait réfléchir.
Alors ZDNet, l'intégration du droit d'auteur au traité TAFTA fait polémique, par Thierry Noisette.
Donc TAFTA, on en a parlé la semaine dernière ou celle d'avant, c'est le nouvel accord valise dans lequel on va mettre tous les trucs qu'on n'aime pas.
Secret, on précise bien.
Oui, en plus ou moins secret, puisque là il y a quand même des choses qui sortent, et ben ça y est, on remet dans cet accord-là, donc un accord transatlantique, ce qu'on trouvait dans ACTA l'année dernière, donc des éléments sur le droit d'auteur et les brevets. Et
tout, voilà, tout ce qui était dans ACTA, tout ce qu'on a déjà combattu, toutes les problématiques des DRM, des droits d'auteur, etc. Tout est remis là-dedans, ça va être encore fait, hein. Ça va être encore un gros bordel. Donc bon, bah, on va voir.
On rappelle que les problèmes que ça posait dans ACTA, c'est que au nom de la défense des droits d'auteur, on mettait en place des choses qui allaient contre la neutralité d'Internet et contre les libertés essentielles. Hein,
voilà, les libertés individuelles avec, pareil, de la surveillance, des contrôles, de la limitation de droits. Donc voilà, c'est vraiment voilà. Au nom de la défense de certaines économies, certains se donnent tous les droits en fait par rapport à...
Donc la quadrature est citée dans l'article et donc sa citation c'est donc la quadrature propose que soit exclue des accords commerciaux toute disposition mettant en cause les libertés fondamentales, le développement des logiciels libres ou l'accès de millions de malades à des médicaments génériques abordables, puisque c'était un des éléments d'ACTA. On attend de voir ce que ça donne pour TAFTA.
Donc Numérama, la journée mondiale 2013 contre les DRM, c'est aujourd'hui, par Julien L.
C'était la semaine dernière, journée mondiale contre les DRM, c'est quelque chose qui est organisé par la FSF et auquel l'April s'associe.
Donc parce qu'on a envoyé donc une pétition, en particulier pour contrôler les DRM, qui a été envoyée au W3C. Ben, on en avait déjà parlé ici dans les revues de presse. Le W3C, donc, est l'organisme de normalisation d'Internet, bah, souhaitait mettre en place des DRM sous plus ou moins la pression, les lobbies de certains groupes. Et donc là, il y a eu pas mal de signatures d'envoyer là-bas. Donc, on verra bien ce que ça va donner.
Les pétitions, c'est toujours... Voilà, c'est des choses qu'on fait, mais c'est quand même difficile d'avoir une pétition très efficace. On en avait fait par le passé, notamment contre les brevets logiciels, mais beaucoup plus grosse que celle-là, ça n'a pas eu beaucoup d'influence. En tout cas, voilà, c'était une journée qu'on fait une fois par an. On rappelle, les DRM, ce sont ces systèmes informatiques rattachés à des fichiers qui vont limiter l'usage d'un fichier, comme par exemple bloquer les copies, ou le nombre de lectures, ou
l'équipement, l'équipement sur lequel on peut le lire, les conditions, enfin, voilà, et ça peut... Théoriquement, les éditeurs peuvent limiter à peu près tout et n'importe quoi. Ça pose des problèmes parce que même en l'ayant acheté légalement, des fois on peut se retrouver limité par des systèmes. C'est encore plus vrai quand on utilise du logiciel libre ou de l'open source.
Alors on sait qu'en 2006-2007, ouais, dans ces eaux-là, ils avaient utilisé les DRM pour la musique. Ils avaient fini par faire marche arrière parce que ça provoquait plus de soucis pour les clients nets que ça ne résolvait de problème. Voilà, là, cette question des DRM va être probablement d'actualité dans les mois qui viennent avec la loi sur la consommation qui vient. Il y a des choses intéressantes de ce côté-là. On vous en reparlera probablement dans les mois qui viennent.
Bah voilà, c'est la fin pour cette semaine. Donc, à la semaine prochaine tout le monde.
Et merci Nicolas et au revoir tout le monde.
Salut.